Romuald Sura, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous dressez le portrait d'une organisation affaiblie, en mode survie quasiment, et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque dans le sous-titre, du Rwanda à la Syrie, histoire d'un sabotage, on remonte donc jusque dans les années 90, qui sont pourtant les lendemains de la guerre froide où tout aurait dû aller mieux pour l'ONU.
Tout à fait, mais c'est pourtant là où tout a commencé à aller mal. Malheureusement, à partir de 92, alors que tout était aligné pour être positif, premier sommet du Conseil de sécurité au niveau des chefs d'État, un président américain, George Bush père, très différent de son fils, qui avait une certaine vision du multilatéralisme et qui avait compris l'utilité du système ONU, et un secrétaire général qui avait une véritable vision, Boutros-Ghali. Pourtant, à partir de là, tout a commencé à aller mal avec l'arrivée de l'administration Clinton. Effectivement, le Rwanda, tragédie yougoslave, etc. L'ONU a été éclipsée de la scène internationale progressivement et nous nous retrouvons, nous en sommes aujourd'hui.
Alors, qui est responsable? Parce que dans le titre, quand même, qui veut la mort de l'ONU? Vous sacrifiez un petit peu à l'humeur de ces temps où on cherche, c'est presque complotiste comme titre. Qui est derrière ce sabotage, entre guillemets?
Alors, ne cherchons pas un complot mondial. Il s'agit plutôt d'un comportement des États, essentiellement des plus puissants, à commencer par les États-Unis. Il n'y avait pas une volonté de la part de l'administration Clinton, qui était une administration progressive, démocrate, de nuire au système ONU. Il y a eu plutôt une impression que celui-ci pouvait entraver les démarches américaines à travers son action politique. Et donc, d'une manière plus ou moins consciente, il y a eu une mise à l'écart des Nations Unies. Donc, pas une volonté de l'administration Clinton de nuire aux Nations Unies, une volonté, par contre, de la mettre à la botte de la Maison Blanche. Les autres États membres permanents, France, Russie, Chine et Royaume-Uni, ont également leur part de responsabilité. Le fait que la guerre froide ait été terminée, que nous nous retrouvions dans un monde à relations multilatérales, certes, mais où les relations bilatérales devenaient de plus en plus importantes, a rendu l'ONU un peu caduque en tant que forum international. Il était donc beaucoup plus évident et beaucoup plus facile pour des grandes puissances de s'entretenir entre elles, ou via des ensembles régionaux comme l'Union européenne, l'Union africaine, la Ligue arabe, ou même des directoires un petit peu illégitimes au niveau démocratique comme le G7, G8 et par la suite le G20.
Et est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble que Donald Trump, le président américain qui est vraiment l'adversaire déclaré du multilatéralisme, est-ce que c'est lui qui pourrait donner le coup de grâce? Est-ce qu'il y a quand même ce danger, ce risque d'une fin de l'ONU?
Le coup de grâce, oui, tout à fait. L'ONU aujourd'hui n'est plus qu'un figurant sur la scène politique internationale. Les Nations Unies continuent à accomplir un travail extraordinaire au niveau du développement, de la lutte pour les droits de l'homme, pour les droits de la femme, l'enfance avec l'UNICEF, le PNUD, etc., etc.
Presque une agence humanitaire.
Exactement. L'ONU, telle que nous l'avons souhaitée après la Seconde Guerre mondiale, espérée après la fin de la guerre froide, malheureusement, n'existe pas. Elle n'a jamais véritablement existé. Mais l'idée a été vivante un moment. Aujourd'hui, l'idée même est morte. Donc, le système ONU continue à fonctionner. L'ONU politique n'est plus présent du tout. Un coup de grâce est tout à fait possible, même à ce système humanitaire.
Est-ce que vous croyez dans l'idée de certaines réformes, par exemple, une possibilité d'agir sur le droit de veto qui, pour l'instant, paralyse vraiment le Conseil de sécurité
non,
et l'ONU?
Non, non. On y a tous cru en 2005, lors des 70 ans de l'ONU et du grand sommet de septembre 2005. Malheureusement, les réformes n'ont pas pu aboutir. Les réformes du Conseil de sécurité, que ce soit droit de veto, que ce soit élargissement, c'est un petit peu le serpent de mer. Chaque fois qu'il y a un nouveau secrétaire général, on entend parler, ou un nouveau chef d'État avec quelque influence, et puis non. Il n'y aura pas d'élargissement du Conseil de sécurité, au moins pour les 5-10 prochaines années. Il n'y aura pas de réforme non plus du droit de veto. Ce que nous risquons de voir prochainement est plutôt une baisse drastique de l'aide au budget des Nations Unies des Américains, comme cela a déjà commencé, on l'a vu avec, pour ce qui est la Palestine, l'UNESCO, etc., etc. Et cette baisse drastique de l'apport financier américain pourrait être le début de ce coup de grâce qui va entraîner une dissolution de l'ONU qui peut, d'ici 15-20 ans, exister uniquement à travers son système d'agence, comme une sorte d'alliance d'agence humanitaire.
Merci beaucoup Romuald Sura. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Qui veut la mort de l'ONU, du Rwanda à la Syrie, histoire d'un sabotage, aux éditions Erol.